Frères et sœurs, en ce deuxième dimanche du temps de l'Avent, nous retrouvons cette très belle et forte personnalité de Jean le Baptiste qui, vous le savez, clôt la grande lignée des prophètes d'une part, mais a ce rôle très délicat et j'allais dire presque diplomatique, comme notre Saint-Père, le pape Léon XIV, de créer un pont ou des ponts entre l'Ancien et le Nouveau Testament, entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Alors il est quand même important de rappeler rapidement le contexte. Ça fait déjà aux alentours de 90 ans que le pays est occupé par les Romains. Le roi Hérode est toujours en place, par les Romains également, même s'il est unanimement détesté. Et les partis religieux, qui sont nombreux, se divisent et on ne sait plus très bien véritablement qui croire. Donc c'est important de rappeler ce rapide contexte, car c'est dans ce contexte-là que Jean le Baptiste se met à prêcher. Et le premier point que j'aimerais rappeler rapidement, c'est qu'il vit dans le désert. Alors, si Saint Matthieu précise que c'est dans le désert, c'est pas du tout par intérêt du désert en tant que tel et du degré de sécheresse, c'est le sens spirituel du désert. Je vous rappelle souvent qu'il y a deux lieux de rencontre avec Dieu dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, c'est le désert et la montagne. À vrai dire, cette région, pour ceux et celles qui y sont peut-être allés, n'est pas totalement désertique, mais c'est dans ce contexte-là que Jean le Baptiste va prendre la parole. Et non seulement il s'inscrit dans la lignée des grands prophètes de l'Ancien Testament, et en particulier du prophète Élie, mais il va revêtir, j'allais dire, les vêtements aussi de l'Ancien Testament, comme de la nourriture, des très grands prophètes que nous découvrons dans la Sainte Écriture. Mais aussi, il rejoint les grands prophètes par sa prédication. Il les rejoint. Car comme eux, il a un double langage que je vous rappelle souvent, c'est-à-dire un langage qui n'est pas moralisant, un langage qui est encourageant, parce que les prophètes sont envoyés toujours pour encourager les fidèles et le peuple à des moments où ils traversent des épreuves. Donc un langage qui est à la fois doux, encourageant pour les humbles, pour ceux qui ont un cœur et une âme de pauvre, et un langage plus, j'allais dire, dur à l'égard de ceux qui ont le cœur fermé pour les orgueilleux, autrement dit. Mais ce qu'il faut savoir, et que nous savons bien en définitive, ce ne sont pas les personnes qui sont visées en particulier, mais c'est une manière d'être, c'est un comportement. Le but étant de rassurer les petits et de réveiller ceux et celles qui se croient arrivés, comme on dit, c'est-à-dire qui croient tout savoir et arriver avant les autres, et d'attirer leur attention sur leur comportement. Par exemple, plus qu'une insulte, l'expression « engeance de vipère » que nous retrouvons dans le texte est une mise en garde. Cela revient tout simplement à dire « vous êtes de la même race que le tentateur, le diviseur du paradis terrestre », c'est-à-dire « vous êtes des éléments à convertir ». Et le plus rapidement possible. L'autre point, toujours comme les grands prophètes de l'Ancienne Alliance, Jean-Baptiste annonce un jugement. Un jugement qui s'opère comme un tri qui se fera. Et alors là aussi, il faut bien comprendre, non pas un tri entre des personnes, mais un tri à l'intérieur de nous-mêmes. Et nous en revenons toujours à un point très important de la vie spirituelle, qui est l'examen de conscience. Examen de conscience que nous devons faire souvent, pour ne pas dire tous les jours, pour que nous-mêmes, nous puissions faire le tri sous le regard de Dieu et de l'Esprit-Saint, comme un jardinier ferait le tri entre les mauvaises herbes et les semences, qui ne demandent qu'une chose, c'est à pousser, mais qui parfois ne peuvent pas sortir de terre parce qu'elles sont étouffées par les mauvaises herbes. C'est aussi simple que cela. Alors, il faut bien s'entendre sur la personnalité de Jean-Baptiste. Il ne va pas dire dans sa prédication aux uns comme aux autres que tout est perdu. Jean-Baptiste n'a non plus aucune haine envers personne, ni les uns ni les autres. Mais il essaye de nous dire, à nous tous et à nous aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, que un rejeton, pour reprendre l'histoire de l'arbre de Jessé, un rejeton peut encore sortir de nous-mêmes. C'est-à-dire que tout n'est pas perdu et tout n'est pas mauvais. Jean-Baptiste dit bien que c'est Jésus lui-même qui fera ce tri. Celui qui vient derrière moi vous baptisera dans l'Esprit-Saint et dans le feu, etc., etc. Et Jean-Baptiste a aussi une manière très imagée de nous dire qui est Jésus, c'est celui qui vient derrière moi. Il est plus fort que moi. Et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Alors une fois de plus, nous assistons, comme dans beaucoup d'autres lieux de la parole de Dieu, à une sorte de renversement. Et celui qui, jusque-là, était en position de maître, c'est-à-dire Jean le Baptiste, suivi par les disciples, et non pas Jésus. Et donc, nous pouvons nous poser la question, pourquoi Jean le Baptiste s'efface-t-il ainsi devant le nouveau venu, qui est ce Messie en question? Eh bien, tout simplement, parce que Jésus est celui qui, en vérité, va baptiser, non pas avec de l'eau, mais avec l'Esprit-Saint. Lui seul peut le faire. Lui vous baptisera dans l'Esprit-Saint. Qui d'autre peut baptiser dans l'Esprit-Saint, sinon Dieu seul? Alors, très belle manière de nous préparer dans ce temps de l'Avent, au mystère de l'Incarnation, nous aurons nous aussi à nous effacer humblement devant la crèche pour accueillir ce don de Dieu, Dieu ayant tant aimé le monde qu'il nous a envoyé son propre Fils. Se retirer humblement pour laisser la place à celui qui vient et que nous accueillons dans notre propre crèche, c'est-à-dire dans notre cœur. Amen.